On est de retour au Club du matin, on est là jusqu'à 10h. Richard Labbé derrière le micro, Hugo Reich au platine. Et ça fait plusieurs invités qu'on a déjà à l'émission, la semaine passée aussi. Et notre prochain invité, c'est le premier invité qui m'envoie des photos de ses cartes de baseball en message pendant qu'on anime. On avait une discussion sur les cartes de baseball. et Maxime Lamarche m'envoie des photos de ses cartes à la maison. Alors, c'est fabuleux. Puis, on va lui parler immédiatement. Maxime Lamarche, directeur général de Baseball Québec. Salut, Maxime.
Salut, Richard. Salut, Hugo. Ça va bien, les gars?
Ben ouais. Là, t'as-tu des cartes à vendre? C'est ça que tu fais, là?
Ah non, les cartes, ils vont être à vendre. Tu sais que tu nous as parlé de la stratégie, ils vont probablement être à vendre dans 20-25 ans, pas tout de suite.
OK. Quand les joueurs en question vont être des membres du Temple de la Renommée.
Exactement, puis c'est tellement drôle parce que j'ai recommencé à collectionner les cartes avec mes deux plus vieux garçons qui ont 11 ans et 9 ans l'automne dernier, puis on a comme pogné la piqûre. Je collectionnais les cartes Pro 7 de hockey dans le temps, là, 20-25 ans, puis on a repogné cette piqûre-là, puis je trouvais que c'est une belle manière aussi de parler de baseball dans le off-season avec mes gars, puis sans que ça soit toujours en lien avec le jeu qu'ils font l'été. Fait que c'est rentré dans notre routine, mais on va se le dire, hein, ça a évolué aussi, le prix des cartes de baseball.
Ouais.
C'est quelque chose, hein?
Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, si tu étais intéressé par quelques cartes recrues de Todd Van Poppel, tu me fais signe, j'en ai quelques-unes.
J'ai des bons souvenirs de lui, mais je vais te laisser ces cartes-là.
Oui, c'est ça exactement. Il n'est pas devenu ce que l'on croyait. Écoute, Maxime, on parlait cette semaine du fait que les du côté des Nationals à Washington, on célèbre. C'est le 20e anniversaire de la création de l'équipe, tout ça. Et nous, évidemment, ici, on célèbre pas du tout parce que leur naissance, ça veut dire le départ des Expos de Montréal. Et quand les Expos sont partis, Maxime, on a été plusieurs à s'imaginer que les terrains de baseball allaient devenir des parcs à chiens partout à Montréal, puis que ça allait fermer, puis qu'il n'y a aucun jeune qui allait vouloir jouer. Mais je crois comprendre que malgré le départ et toutes ces années plus tard, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un genre de recrudescence pour le baseball là, chez nos jeunes au Québec?
Oui, mais si on fait un petit retour justement jusqu'à 2004, c'est très vrai de dire que la moitié des terrains de baseball au Québec ont été changés à ce moment-là, soit en parc à chiens, un peu moins en parc à chiens 2004-2008 et beaucoup plus en terrain de soccer aussi. Il y a tellement eu une grande croissance du soccer que les élus municipaux n'avaient pas le choix d'aller de l'avant et de se dire on peut pas laisser un terrain de baseball à l'abandon qui n'est pas utilisé parce que justement, il y avait un creux de vague, on avait atteint le fond du baril. Donc, on part de cette base-là, la moitié des terrains de baseball au Québec au début des années 2000 ont disparu. Par contre, tu as raison de dire que la croissance de notre sport est assez fulgurante parce que si en 2004-2005, dans les années les plus bas, on était rendu provincialement avec 17 000, 18 000 joueurs, et je vais dire joueuses, mais qu'on pouvait compter par dizaines et non par milliers, ben cette année, on est tout près de 40 000 joueurs et joueuses. Donc, passer, doubler même plus son membership avec annuellement des augmentations, puis dans une société maintenant qui a tendance à vouloir moins bouger, hein, on le dit souvent nous autres dans nos défis, c'est pas la concurrence avec les autres sports, la plupart du temps c'est la concurrence avec le pas de sport.
Mm-hmm.
Les jeunes ont tendance à être plus sédentaires, veulent plus jouer aux jeux vidéo, donc de passer du temps à faire de l'activité physique, c'est le grand défi, c'est de sortir des maisons. Fait que d'avoir un sport d'équipe qui est encore en croissance, c'est assez impressionnant. Puis le gros et le beau de cette croissance-là, c'est de passer de probablement 400-500 filles qui jouent au baseball en 2004-2005 à plus de 6000 qui jouent au baseball en 2025.
En quoi? Ben, c'est ça, je mentionnais parce que souvent on dit que quand tu perds une équipe professionnelle, il y a un effet d'entraînement sur plein de choses. Il y a des gens qui parlent d'économie, bon, il y a des gens qui parlent de la pratique du sport en particulier. Et là, tu nous disais avec ces chiffres-là que, bon, ben 20 ans plus tard, après le départ des Expos, c'est pas tout à fait le cas. En quoi est-ce que tu attribues ce retour du baseball, si on veut, là, parmi les jeunes?
Ben, j'attribue ça à une communauté qui, après avoir vécu ce drame-là, s'est relevé les manches, a dit « ben le baseball, faut qu'on leur mette ses tracts, il faut qu'on on montre à la population que ça peut être fait autrement ». Donc, à ce niveau-là, les gens sont arrivés avec des programmes très innovants, comme on a un programme d'initiation, de découverte qui s'appelle le programme Rally Cap. Donc, quand tu as 4 à 7 heures, au lieu de jouer tout de suite des parties, parce que vous connaissez le baseball, les gars, c'est hyper complexe. Là. Faire un lancer du troisième but au premier but ou frapper une balle qui s'en vient en mouvement, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Mmh. Fait qu'imaginez chez un jeune de 4-5 ans qui a peut-être des fois, et très souvent, la main trop petite pour tenir la balle. Mmh. Comment c'est difficile à faire. Donc, nos gens de baseball se sont troussés les manches, ont mis en place un programme comme le Rally Cap qui est fait sous forme d'atelier où est-ce qu'après 1h30, 1h45, tu avais fait un atelier de course, un atelier à comment attraper la balle, un atelier comment lancer, à frapper des balles. Et là, on avait une nouvelle génération qui faisait le programme pendant 1, 2, 3 ans et après ça, pouf, arrivait dans un match et était capable de jouer la partie. Et ces améliorations-là, suivi par la suite de une masse évidemment plus grande qui s'en venait. Là, on va parler après de « Oh, le maire Coder, maintenant, ça fait longtemps, est arrivé. Politique baseball a voulu recommencer à parler du baseball majeur qui revenait à Montréal. » Là, tout le monde s'est un peu excité. Les bénévoles ont aussi travaillé extrêmement fort pour implanter tout ça, former encore plus les entraîneurs, justement pour que les jeunes restent sur le terrain de baseball. Donc, tout ça, dans notre environnement, a fait qu'un jeune qui joue au baseball, une fille qui commence à jouer au baseball à 7 ans, ben, au lieu de 1 an, 2 ans après, quitter pour aller essayer autre chose, reste dans notre chemin, reste dans notre fédération. Et je pense que tout ça a fait que on est rendu où on en est aujourd'hui. Et puis, je dois aussi mentionner qu'on est encore plus certain de comment ça nous a fait mal, les expos, parce que on voit à Québec comment c'est la seule région où il n'y a pas eu cette décroissance-là. Et non, évidemment, à Québec, il y a les capitales de Québec.
Oui, exactement.
Ils sont très forts.
Oui, et ça, est-ce que ça entraîne? Oui, ça entraîne aussi. Il y a un effet d'entraînement un peu avec le succès de la Ligue Frontières.
Oh, absolument. Là. Et les capitales, évidemment, c'est une organisation qui est en place depuis 25 ans. C'est plus une équipe régionale qui joue dans une ligue américaine. C'est aussi une équipe du Québec. T'sais. Si on parlait avec Charles Demers, qui est le président de l'organisation, je pourrais nous sortir des statistiques et démontrer que le monde vient de partout au Québec. Évidemment, les Aigles de Trois-Rivières, c'est la même chose dans la région de l'Outaouais avec les champions. Donc, c'est du baseball de proximité. C'est du baseball qui est organisé pour donner un bon spectacle. Fait que clairement, ça aide à rendre notre sport plus populaire et plus sympathique pour les gens.
Et on voit aussi... Maxime Lamarche, quelque chose qui n'existait probablement pas, en tout cas certainement pas, là, il y a 25 ans, 30 ans, c'est de plus en plus de jeunes Québécois qui réussissent à aller obtenir qui ont des bourses pour souvent aller jouer au baseball dans des programmes, dans les universités américaines ou des programmes assez prestigieux. Ça veut peut-être pas dire que ces jeunes-là vont se retrouver dans un club des ligues majeures, mais il y a un genre d'effet d'entraînement. On sent que c'est quelque chose qui existe, qui est possible. Il y a des écoles à Montréal maintenant qui ont du sport-études de baseball. C'est une autre affaire qui n'existait pas il y a très longtemps. Donc, il y a comme une espèce d'écosystème qui est en place maintenant, qui existait à la limite, qui existait à peu près pas quand les expos étaient là.
Ah, absolument. Tu sais, moi, je suis un produit des années 90-2000 et on n'avait pas accès à ça. Les programmes sport-études, on en a à travers le Québec. Puis moi, j'ai été dans les premières cohortes qui sont allées dans les collèges américains. Puis je donnais comme exemple que en 2003, quand j'étais dans un collège en Iowa, on était peut-être une vingtaine ou une trentaine de Québécois qui y allaient cette année. Il y en a au-dessus de 120 qui sont dans des universités américaines ou des collèges. Là, on parle de NCA, on parle de NGCA, on parle de jeunes comme Antoine Jean qui a été repêché, mais qui sort gradué de l'université de Houston avec son diplôme. On parle de Charles Davalan qui était dans le plus gros powerhouse de baseball en Amérique du côté de la NCA à l'université d'Arkansas. Donc, on a de plus en plus de beaux succès de même. Et ces jeunes-là, Eman, viennent de notre milieu, de notre écosystème, puis on essaie beaucoup de le dire aux bénévoles, aux gens qui travaillent dans les organisations. Écoutez, si Charles Davalan aujourd'hui est rendu dans le baseball professionnel, ben il y a des entraîneurs qui ont été là derrière lui, mais il y a aussi des parents, des bénévoles dans des parcs de baseball, quand Charles est un joueur rally cap, un joueur dans le 9U, qui ont donné la piqûre, qui l'ont gardé sur le terrain de baseball, puis qui ont donné le goût de s'inscrire année après année. Et évidemment, on en arrive à ce succès-là. Donc, les jeunes sont capables de faire des liens avec ces joueurs québécois-là qui sont repêchés, qui sont dans les universités, parce qu'ils ont fait les mêmes parcours et les mêmes cheminements.
Et j'imagine, Maxime Lamarche, qu'il y a également un effet d'entraînement. C'est qu'éventuellement, quand tu vois des joueurs québécois qui atteignent les majeurs et qui font parler d'eux, et là, médiatiquement, ça devient une histoire, j'imagine que ça aussi, il y a une influence puis il y a un effet d'entraînement quand les jeunes voient ça.
Ah, absolument. Puis tu parles d'effet d'entraînement, puis j'irai avec redonner au suivant. On a beaucoup de ces jeunes-là qui sont passés à travers, exemple, nos sports-études, puis qui, durant l'hiver, quand il y a leur congé, vont revenir dans leur sport-études, vont revenir dans leur communauté. Mmh. Fait qu'imaginez quand vous êtes un jeune en secondaire 1 en sport-études, puis que tu arrives à Édouard Montpetit à Montréal, puis qu'Abraham Thoreau vient frapper des balles avec toi. Mm-hmm. C'est sûr et certain, puis qui jase un peu, puis qui fait juste te donner un petit conseil, là, c'est sûr que ça change ta vie, puis ça te donne le goût encore plus de rêver, puis rêver grand. Fait que dans cette idée-là, nos jeunes Québécois sont aussi bons à vouloir redonner à la communauté, puis à les faire rêver.
Mm. Et la croissance, tu la vois qui se continue, jusqu'où ça peut aller? Parce que on a l'impression que le baseball est en train de devenir un sport de plus en plus important parmi les jeunes. Jusqu'où ça peut aller, ça?
Il y a encore de la place pour de la croissance. Par contre, on a des grands défis devant nous. On en a parlé au début de l'entrevue. Les infrastructures, évidemment. Mm-hmm. À travers le Québec, il y a environ 150 associations de baseball qui représentent la grande majorité des municipalités du Québec. Mais sur ces 150-là, il y en a peut-être 30, 40 qui, à chaque année, arrivent au mois de mars et sont obligés de refuser des jeunes parce que à un certain point, au baseball, il faut que tu pratiques. Si tu veux être bon en partie, c'est pas en partie que tu peux t'améliorer. Fait que pour des raisons de donner assez de temps de terrain pour pratiquer, ben des fois, on est obligé de refuser des jeunes parce qu'on peut pas mettre d'équipe de plus. On n'a pas de place pour les faire jouer. Donc, ça, c'est le plus grand défi qu'on a devant nous. Par contre, je pense que les municipalités du Québec sont très au fait de cet enjeu-là parce qu'on reçoit énormément d'appels pour des nouvelles constructions de terrains de baseball, pour des rénovations de parcs, pour installer des terrains synthétiques qui permettent aussi de jouer beaucoup plus de parties de baseball, faire beaucoup plus de pratiques que quand c'est un terrain en gazon qui est complètement, exemple à ce temps-ci de l'année, brûlé par la chaleur et après ça qu'on piétine, puis tu deviens dangereux. Donc, tout le monde est un peu au courant, au fait de ça. Mais c'est probablement le plus grand frein qu'on a présentement. Ça va être où c'est qu'on fait jouer les jeunes joueurs et les jeunes joueuses à travers le Québec.
Ouais. Parce qu'on avait hier à l'émission Enrico Ciccone qui nous parlait un petit peu des défis du hockey, en particulier l'aspect financier pour les jeunes joueurs. Mais heureusement, le baseball, puis peut-être qu'on peut avoir des chiffres si vous en avez, mais pour des jeunes qui commencent là, à 7, 8, 9 ans, financièrement, c'est beaucoup plus abordable, par exemple, que le hockey à ce moment-là.
Ah, ben c'est sûr que c'est plus abordable que le hockey et que ben d'autres sports. Par contre, on est un peu dans la même réalité où est-ce que ça finit toujours par coûter plus cher. T'sais? Puis là, quand on parle de prix moins élevés, on va parler du baseball communautaire, on va parler du baseball initiation, mais à partir du moment où tu arrives dans un circuit un petit peu plus élevé, je vous donne un exemple, on est dans le temps de l'année où c'est les championnats canadiens, fait qu'on a des équipes du Québec qui s'en vont un peu partout à travers le Canada et on fait une sélection pour les 18 ans et moins, ils partent dans deux semaines, les meilleurs du Québec. Et là, tu leur annonces que pour un championnat canadien, ça va leur, sur cinq jours seulement, ça va leur coûter 2 500 $, 2 700 $. Ben, et ça, c'est la réalité qu'on a parce que maintenant, un billet d'avion pour aller à Fort McMurray en Alberta, ça coûte 1 800, ça coûte 1 900. Avant, ça coûtait 800. Fait que, tu sais, on est encore un sport très, très, très accessible. On s'est fait la promesse à Baseball Québec de toujours trouver le moyen de garder la tarification, les prix les plus bas possibles. Mais on est quand même coincé dans cet engrenage où est-ce que tout coûte plus cher à gauche et à droite puis qu'on est conscient que pour une famille qui va passer son été sur le terrain de balle, ben il va falloir qu'elle mette de l'essence dans la voiture pour se promener à travers le Québec, puis qu'elle prenne des chambres d'hôtel qui jadis coûtaient 90 $, qui sont rendues à 250 $. Fait que on essaie de minimiser, mais faut pas se faire de cachette que malgré tout ça, ça va vite puis ça coûte cher.
Ouais. Et quel impact là, Maxime Lamarche, en terminant, on parle beaucoup de la venue éventuelle d'un club à Montréal de la Ligue Frontier. On parlait avec Charles Demers récemment à Québec. C'est quelque chose qui se discute. Est-ce que c'est le genre de chose qui aurait un impact positif, justement, sur la pratique du sport?
Ah, c'est clair. On regarde ce que les capitales ont fait dans les dernières années. La nouvelle équipe qui s'en viendrait dans la région, on va dire dans la communauté métropolitaine de Montréal, partirait pas à zéro, partirait justement de l'expérience acquise par les capitales dans les 25 dernières années, de ce qui a été fait avec les Aigles, parce qu'on parle ici d'une gang de Québécois qui veulent que le baseball fonctionne. Donc, je suis convaincu que ça aurait un impact immense. Et où est-ce que ça serait encore un avantage? C'est que ça nous permettrait de pousser encore plus fort avec des municipalités auto pour démontrer que le baseball est tellement en santé, en popularité, que ça nous prend encore plus de terrain de baseball pour faire jouer ces jeunes-là.
Encore plus de terrain, ben là, on n'aura plus de place si éventuellement.
C'est parfait. Au lieu de lever des tours à condo, qu'on passe des endroits où est-ce que les gens pourront bouger, on est bien d'accord avec ça, nous autres.
Bon, ben excellent. Maxime Lamarche, directeur général de Baseball Québec, merci beaucoup d'être passé à l'émission ce matin.
Hey les gars, ça me fait plaisir que j'en profite. Hein? C'est la journée du 12 août. Je vous invite à acheter la biographie de Claude Raymond, Frenchie, qui a été un livre que j'ai fait lire à mes enfants et à moi-même. Découvrir l'histoire de Claude Raymond, qui a passé du temps avec Hank Aaron, avec les plus grands du baseball. C'est un eye-opener sur ce que cette personne, cette belle personne-là, a fait pour le baseball québécois. Fait que c'est un livre québécois, Claude Raymond, Frenchie. Je vous le suggère.
Bon, ben c'est une excellente suggestion, Maxime. Parfait, merci beaucoup de la suggestion.
All right, les gars.
Super, merci beaucoup. Passe une très bonne fin de journée. C'était Maxime Lamarche, directeur général de Baseball Québec.